C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani, fondateur de Slate et ancien directeur du Monde. Alors il avait promis d'être un rempart contre l'extrême droite, mais sera-t-il celui qui ouvre le portail de Matignon à Jordan Bardella ? Alors que beaucoup dans la majorité le supplient de se taire, le chef de l'État qui inaugure les chrysanthèmes avec la suite des commémorations du débarquement en profite pour faire campagne. Il ne met pas seulement son grain de sel, mais jette des pavés dans la mare en attaquant la France insoumise qu'il juge immigrationniste. Il faut reconnaître que pour l'instant, le match se fait sans lui. Les projecteurs sont braqués sur le Rassemblement national et le nouveau Front populaire avec la guerre des programmes. Jordan Bardella met du soupline dans ses promesses et la gauche reste dans sa radicalité programmatique. En attendant, Éric Ciotti, le Républicain, enfin ce qu'il en reste, rejoint la croisière s'amuse du Rassemblement national et la majorité regarde passer les trains comme le backseat driver, comme disent les anglo-saxons. On en parle avec nos invités. Bonsoir Nathalie Saint-Cricq.
Bonsoir Roselyne.
Vous êtes éditorialiste à France Télévisions et vous avez publié il y a quelques mois « L'ombre d'un traître » aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir à vous Catherine Tricot, directrice de la revue Regard.
Bonsoir Roselyne.
Bonsoir Carole, vous êtes éditorialiste politique. Et en fin d'émission, nous retrouverons Véronique Reissoul pour la politique sur les réseaux. Alors encore une fois, Jean-Marie, les journalistes vont se muer en sorte de comptable. C'est dans le fond ce qui se joue en ce moment, enfin, en tout cas à l'heure où on parle, parce qu'il se passe des choses tous les jours. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt les journalistes que ça intéresse ou les observateurs que les électeurs ?
Peut-être, en tout cas, ce qui est réjouissant d'une certaine façon, c'est qu'enfin on parle des programmes. Parce que jusqu'à présent, les élections européennes nous avaient appris qu'on parlait de tout autre chose, pas de l'Europe, oui. pas de programme, ni de quoi que ce soit. Donc la bataille s'engage sur les programmes, c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf qu'il y a tellement peu de temps. Donc il y a des chiffres qui vont surnager, des batailles qui vont s'organiser autour de tel ou tel prélèvement, mais... voilà, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'aller vraiment au fond des choses, parce que c'est dans quelques jours, hein, le premier tour, c'est le 30 juin. Donc jamais on a vu une campagne aussi brève et aussi rapide. Aujourd'hui, il y avait la plupart des candidats étaient reçus par le MEDEF, donc on a eu l'occasion de tester un petit peu, d'écouter en tout cas un certain nombre de promesses. Mais je ne suis pas sûr que ça, à ce stade, que ça influence le vote, même les chiffres hallucinants qui sont donnés. Et le grand paradoxe de tout ça, c'est que le président, au fond, a fait cette dissolution en nous disant qu'il allait clarifier, aider le paysage à se clarifier.
Ça pourrait être clarifié.
Oui, et que donc, il allait, au fond, nous aider à sortir d'une crise politique. À un moment, on disait, attention, la dissolution ou quoi que ce soit d'autre, il ne faut pas ajouter la crise à la crise. Donc d'ajouter une crise politique à une situation économique qui était un petit peu difficile. Là, le paradoxe, c'est qu'avec ce qui se joue sur les programmes, on va ajouter à la crise politique la crise économique et financière. Mmh. Parce que ce qui est annoncé sur les programmes, ça nous amène tout droit à une bataille des taux et à une, des attaques en règle contre des attaques en règle contre les dettes souveraines de la France, de l'Italie, peut-être d'autres pays. La France et l'Italie étant les pays les moins bien placés.
On va écouter Jordan Bardella, puisque déjà il a expliqué qu'il ne serait pas Premier ministre s'il n'avait pas de majorité, mais il se veut raisonnable. On l'écoute.
J'ai compris en venant ici devant vous aujourd'hui qu'il fallait que je rassure les milieux économiques. Je pense que la France est aujourd'hui à la croisée des chemins, que la situation budgétaire du pays et que la déraison budgétaire dans laquelle nous sommes plongés depuis 2017 fait peser un risque de décrochage économique, que ce bilan de 300 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis 2022, d'un état des lieux de 3000 milliards aujourd'hui, record également du déficit public et du déficit commercial, impose d'abord de l'humilité de la part de ceux qui en sont comptables et surtout un esprit de responsabilité pour ceux qui s'apprêtent à leur succéder.
Voilà. Alors, est-ce que, Nathalie, c'est un double tranchant ? C'est-à-dire que est-ce que les électeurs vont se dire, encore un qui nous a raconté des sornettes ? Voilà, Emmanuel Macron voulait une clarification, il y en a eu une. Est-ce que c'est pas un double tranchant ?
Pour l'instant, les explications tiennent à peu près la route. C'est-à-dire le côté, c'est pas en trois mois qu'on va tout faire, on peut comprendre. On peut comprendre. Je parle de la démarche marketing de Jordan Bardella vis-à-vis des électeurs. La deuxième, c'est n'ayez pas peur. C'est-à-dire qu'effectivement, il l'a dit ce matin, il l'a dit l'autre soir à la télévision, il l'a dit ce matin devant les milieux économiques, il sait très bien que la bourse a commencé à baisser, que les taux d'intérêt ont commencé à avancer, qu'il faut un budget à la rentrée, ce serait un minimum, et qu'ils ne peuvent pas, en gros, être à l'origine d'une espèce de panique économique. Donc il nous prépare, là où c'est un peu lourd, c'est quand il nous fait le coup du bilan ou de l'audit.
Oui. Parce qu'en gros, à chaque fois, c'est les gros sabots.
Oh là là, on a découvert des choses qu'on ne savait pas. Or, il suffit de lire les 2 milliards de rapports de la Cour des comptes qui tombent régulièrement pour avoir tous les chiffres. Donc ça, les gens peuvent être probablement dire « Ah bah finalement, il est un peu comme les autres ». Mais quand il rajoute, pour l'instant, ses premiers ministres, notre vraie échéance, c'est 2027, les gens peuvent se dire « Finalement, c'est pas idiot ». Quand il se montre conciliant quand même, Marine Le Pen explique qu'il faudra quelque chose d'union nationale, c'est-à-dire qu'elle tend les bras ou la main aux autres, et les gens peuvent se dire, mais regardez, ils ne sont pas si radicaux que ça. Donc je considère que dans un premier temps, il amorce toujours cette dédiabolisation au niveau des programmes, et surtout, Jean-Marie se félicitait du côté programmatique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au programme. J'ai l'impression qu'on s'y intéresse vaguement, mais que je ne sais pas si vous avez vu, y compris pendant la campagne européenne, plus on mettait Jordan Bardella devant ses contradictions en lui disant « mais vous dites ça, mais c'est pas possible », et plus il montait. Donc on peut se dire que... Ouais. Moi, j'entendais des... Ça veut rien dire une fois de plus. J'entendais des auditeurs ce matin dire « bah oui, d'accord, il n'y a pas tout, mais c'est déjà un début, c'est quand même mieux que le reste ». Donc le côté normalisation me semble emporter sur le côté « il est comme les autres, il dit des choses, il ne les fait pas ». Parce que la différence avec les autres, c'est qu'ils ne le disent pas avant, ils le disent après. Ouais. Or, ça peut passer pour la France.
C'est comme Chirac qui disait « on se fait élire, on voit après voilà. ». Mais Carole, est-ce que ça vous paraît être, dans le fond, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, le Rassemblement national, il y aura toujours ce qui pèse au-dessus de leur tête et dans le bon sens, hein, c'est-à-dire c'est ben, on ne les a pas essayés, on va les essayer. Est-ce que ce n'est pas ça qui prime depuis le début ?
J'en suis pas complètement certaine. C'est vrai qu'il y a cet argument. Mais je trouve que tout ce qu'a dit Jordan Bardella récemment, ça montre quand même, ça traduit, à mon avis, une peur de gouverner, parce que cette dissolution arrive quand même.
Alors c'est ce que dit Gabriel Attal, il y a un refus d'obstacle.
Oui, le refus d'obstacle, je dirais pas ça comme ça, moi, le refus d'obstacle. Mais si vous voulez, ça arrive trop tôt pour eux. Ils ne sont pas forcément prêts. Et surtout, si jamais ils ont la majorité absolue, donc là, Jordan Bardella va à Matignon. Le problème, c'est que au-delà des reculs et de tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu là depuis une semaine, on abroge les retraites, on adoucit le programme et on essaie de rassurer les chefs d'entreprise, etc. Au-delà de ça, il y a quand même un deuxième pilier dans le programme du Rassemblement national et dans ce qu'attendent ses électeurs, c'est l'immigration. Oui. Or, sur l'immigration, ils ne pourront rien faire, absolument rien faire de ce qu'ils proposent. Parce que tout ce qu'ils proposent, qui aboutirait à la maîtrise des flux migratoires, etc., c'est quoi ? Limitation du regroupement familial, instauration de la priorité nationale, des flux, etc. Et ça demande une révision de la Constitution, avec un référendum ensuite, puisque c'est obligatoire.
Et ça, mais là, c'est comme le coup de l'audit. Mais c'est le coup de l'audit.
Il a dit, pour ces choses-là, ne vous attendez pas à grand-chose sur l'immigration 2027.
Il dit pas ça exactement comme ça. Et en fait, ils ne pourront rien faire, sauf des petits trucs à la marge, sur ce sujet, qui est quand même la deuxième, voire presque la première, avec le pouvoir d'achat de leurs électeurs. Donc, ils risquent forcément de décevoir. Et ce n'est pas forcément une bonne chose pour 2027. Moi, je pense qu'il y a aussi de ça.
Comment voyez-vous sa petite phrase lâchée, Catherine, sur le parti des extrêmes ? Là, il parlait du nouveau Front populaire. Parti immigrationniste. On a l'impression que là, il jette les électeurs dans les bras du RN.
Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron, là, visiblement, a une stratégie, c'est mon ennemi numéro un, c'est les électeurs qui m'ont élu. C'est-à-dire ceux qui, comme moi, moi je suis de gauche, je n'ai pas voté pour lui au premier tour, mais j'ai voté pour lui au second tour, pour pouvoir barrer la route à Marine Le Pen, pour que Marine Le Pen soit la plus basse possible, pour qu'elle ne s'installe pas comme le leader, l'alternative évidente. Donc il nous a dit, ça m'oblige. À la fin de son élection, il nous a dit « ça m'oblige », il nous a parlé du fait que son quinquennat serait écologique, ne serait pas, etc., etc. Toutes choses qui nous ont parlé aux électeurs de gauche. Et là, bah, non. Là, son objectif numéro un, c'est de dire c'est pas terrible le programme du Front National, c'est dangereux économiquement, mais celui du Front Populaire, c'est quatre fois pire. Il n'a pas dit pire, ouais. Il a dit c'est quatre fois pire. Mais comme la gauche serait très immigrationniste. Reprenons un terme, un vocabulaire.
Oui.
Hein, c'est le vocabulaire qui est un vocabulaire d'extrême droite. Donc, il y a quand même quelque chose qui est très troublant. Comment se fait-il que cet homme qui nous a dit qu'il ferait barrage contre l'extrême droite a fait ses deux premières années en étant très frontal par rapport aux questions sociales avec vis-à-vis des gens qui s'opposaient à la réforme des retraites, mais aussi qui a osé négocier une
Je crois que vous avez un petit problème de micro, Catherine.
Ah bon ?
Donc le temps qu'on je vais vous redonner la parole, vous inquiétez pas, mais je crois qu'on vous entend pas. On va écouter, je vous redonnerai votre temps de parole, ne vous inquiétez pas. Gabriel Attal, donc, lui, a dit que le nouveau Front Populaire était prêt à s'allier à n'importe qui. On va l'écouter et on va en parler.
Ils sont prêts à s'allier avec n'importe qui. On voit des gens qui se détestent se mettre ensemble dans une alliance. Alors, ils utilisent des euphémismes pour essayer de le justifier. C'est pas un mariage d'amour, etc. Enfin, la réalité, c'est qu'on voit des gens qui se détestent s'allier simplement dans la perspective de se dire « ça peut peut-être nous permettre de gagner ». Pas pour transformer la vie des Français, juste pour gagner, pour gagner. Ils sont prêts donc à s'allier avec n'importe qui et à proposer n'importe quoi.
Alors Catherine, comment vous regardez justement cet étrange attelage qui va de M. Poutou à François Hollande, en deux mots ?
Ceux qui s'opposent Emmanuel Macron, qui veulent ouvrir une alternative à Emmanuel Macron et qui ne se réservent pas à l'idée que l'extrême droite prenne le pouvoir. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est la gauche au sens très large du terme. Je crois qu'il y a un peu d'esprit de responsabilité de se dire qu'il faut rassembler tout le monde. Ceci étant, tout le monde sait bien que Philippe Poutou ne sera pas élu député et que quand bien même il ne serait qu'un parmi d'autres.
C'est-à-dire
que
c'est, oui, mais bon,
ça fait pas. Non, mais c'est
ça
pas.
Ça fait un peu partie des éléments de langage de...
Oui. Mais c'est vrai que le NPA...
Oui, de 10 ans de Hollande à Poutou, ok.
Oui, c'est ça, mais vous avez raison. En fait, c'est pas vrai que c'est de Hollande à Poutou, parce que Poutou compte... Mais non, mais c'est fait pour effrayer.
Exactement. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, la gauche ne se bat pas pour gagner. Et ce qui est frappant dans le climat actuel, ce qu'on a vu de... Vous releviez les propos d'Emmanuel Macron tout à l'heure. La bataille, elle est entre la deuxième et la troisième place. Oui. C'est ça qui compte.
Oui.
Donc toute la stratégie de la gauche est celle d'un cartel électoral. Parce qu'il s'agit de considérer que les choses vont se jouer au Parlement. Il y aura une cohabitation. Les choses vont donc se jouer au Parlement. Et l'important, c'est d'avoir pouvoir développer l'opposition la plus forte au Parlement. C'est en cela qu'il y a une alliance à gauche. Ce n'est pas une alliance pour transformer ni quoi que ce soit. Tout le monde le sait. Okay, ouais. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est d'éviter que ses listes soient en troisième position.
Mais pourquoi il y en a qui vocifèrent comme Le Drian
Ça, c'est la campagne électorale. Mais la troisième place, c'est la place du mort dans un scrutin nominal majoritaire. Parce qu'après, vous avez ce qui compte, c'est la bataille entre le premier et le second qui vont s'affronter pour le deuxième.
Et le premier et le second, ça va être...
Ce qui est frappant, c'est que tout le monde a intégré pratiquement la victoire, y compris Emmanuel Macron, quand il nous dit « Ah ben, je préfère une cohabitation maintenant que... »
En 2027.
Voilà, donc s'agissant de cette promesse d'Emmanuel Macron, on peut être sûr qu'on risque d'avoir les deux.
De toute façon, il n'y a pas franchement de morale derrière tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le Front Populaire allie des gens qui ne pensent fondamentalement des choses et sur des sujets graves. Il ne s'agit pas d'être pour la flat tax ou pour je ne sais pas quoi. Donc c'est juste une coalition électorale, très bien. Emmanuel Macron change de cible régulièrement en fonction des sondages. Donc ça a été l'extrême droite, tout en le faisant monter parce qu'il choisissait ça en opposant. Et maintenant que les sondages disent extrême droite, nouvelle... Front Populaire et eux... Ils se disent, s'il y a des triangulaires, imaginons qu'il y ait des triangulaires, parce qu'il y a plus de participation et que donc les macronistes peuvent passer.
Remonte.
Ils vont être troisième probablement, peut-être deuxième. S'ils sont deuxième, c'est bien pour eux, parce que ça veut dire qu'ils passent devant le Front Populaire, le nouveau Front Populaire. Donc que fera le nouveau Front Populaire ? Ou ils se maintiennent et ils aident le Rassemblement National à gagner, ou ils se retirent et ils aident les macronistes. Donc c'est une tactique assez simple. on a tapé sur les premiers, ça n'a pas forcément marché, ils ont monté. On tape sur les deuxièmes en priant le ciel qu'ils soient troisièmes, comme le disait Jean-Marie. Ouais. Comme ça, soit pas de trigger régulière. Et dans une élection entre le Rassemblement national et eux, on refera le coup de... qui vous a été fait, si j'ose dire, la dernière fois.
Oui, deux fois de suite.
C'est-à-dire le barrage au Rassemblement national, et probablement que cette fois-ci, vous le ferez. Encore.
Cela dit, il y a...
C'est le calcul de Macron, une fois de plus.
Oui, il y a dit Bardella, dit Macron. Oui, j'entends bien, mais...
Beaucoup de choses sont étranges dans cette situation, parce que...
C'est pas la morale qui prime, c'est...
Parce que, oui, au point de départ, on pouvait se dire, voilà un président jeune qui arrive, qui veut rénover beaucoup de choses, qui est inexpérimenté, donc va pour l'inexpérience et va pour une part d'apprentissage. Oui. Simplement, on a l'impression, qu'il n'a rien appris en termes de politique, et maintenant qu'il désapprend. Parce que les formules qu'il utilise sont des formules boomerang. L'exemple même étant, jusqu'à présent, le modèle dans les écoles de sciences politiques, de l'erreur politique, c'était la dissolution Villepin-Chirac de 1997, qui a amené Lionel Jospin à gouverner très bien d'ailleurs pendant 5 ans. Bon, mais maintenant, ça va être remplacé par celle-ci, par cette dissolution-là. Et quel est l'état d'esprit du pays ? L'état d'esprit du pays, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bah, de toute façon, c'est son tour, c'est leur tour. On ne les a jamais essayés, donc on va les essayer. Il n'y a pas d'autre motivation que celle-là. Et donc, le train est en marche.
Donc, dans le 4-4 triangle...
Il y a aussi la motivation de sortir Macron, parce qu'il y a quand même une détestation de Macron.
Ça, on l'a vu.
Donc, dans le cas des triangulaires, Rassemblement national, Nouveau Front populaire et la place du mort au milieu... les macronistes font
Le problème, c'est le tiercé. C'est le tiercé, le niveau du tiercé. Bah, c'est-à-dire, 1, 2, 3. Si 1, 2, c'est Rassemblement national, Front populaire, et que les autres sont en troisième, c'est les macronistes, en gros, c'est cuit, parce que ça sera forcément à des deux projets.
Mais eux, ils font quoi ?
Où ils se retirent ?
Oui, c'est ça.
Personne ne veut répondre à cette question pour l'instant. Parce qu'elle est trop pénible pour eux et elle est trop complexe. C'est-à-dire, en gros, c'est toute la question que les gens disent, c'est est-ce que vous mettez un signe égal entre l'extrême gauche et entre l'extrême droite ?
Et qu'elle vient trop tôt, surtout.
Et que surtout elle est trop tôt. Et que ça se réglera entre le premier et le deuxième tour.
Exactement.
Et probablement au cas par cas. Les macronistes voteront pour des socialistes s'ils ont, ou des écologistes s'ils en ont en face d'eux. Et ils ne voteront pas pour des LFI.
Ça dépend des...
Donc tout ça, ça peut préparer un magma, enfin un gros centre,
exactement,
où certains socialistes seront des gens comme Valérie...
Je ne fais pas
de pronostic. J'entends.
On peut toujours
c'est sûr, le RN aura la majorité absolue.
Enfin,
et j'entends également la majorité remonte.
Moi, ce que je veux dire, c'est que le problème de désigner comme ça le Front populaire, c'est que ça prépare en fait l'arrivée de l'extrême droite de deux manières. C'est-à-dire que quand il y a un duel Rassemblement national, Front populaire, ça décourage les électeurs d'Emmanuel Macron d'aller voter pour le Front populaire, puisqu'ils sont épouvantables, encore pire que l'extrême droite en matière économique et pro-immigration, immigrationniste, je ne sais pas quoi. Donc ça découragera une part non négligeable des électeurs macronistes d'aller se reporter sur le Front populaire, dont ça fera voter, ça fera le jeu de l'extrême droite. Et dans l'autre sens, si c'est une opposition extrême droite Emmanuel Macron, mais tous les électeurs de gauche, moi je pense que je le ferai. Je pense que je voterai en toute hypothèse. Dans ma circonscription, j'ai Alexis Corbière, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais dans les autres circonscriptions, quand il y aura extrême droite macroniste, mais il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui se diront non, mais ça va quoi, il nous a fait deux fois le coup.
Mais ils vont pas voter dans ce cas-là.
Vous ferez quoi
Moi, je vais voter pour Emmanuel Macron, pour les candidats qui s'opposent à l'extrême droite.
Vous avez dit ça,
Mais je le dis systématiquement. Il n'y a aucun problème avec ça. Non, mais je pense que la plupart des gens qui sont très engagés, très politisés, c'est ce qu'ils feront. Mais par contre, l'électorat qui s'est fait avoir une fois, deux fois,
s'est fait avoir
sur la réforme des retraites et sur la loi immigration, et à qui on promet Gabriel Attal, qui a dans les placards ses décrets d'application. C'est compliqué d'aller voter pour eux.
Heureusement qu'ils ont Gabriel Attal, parce que s'il n'y avait pas Gabriel Attal, franchement...
Mais en même temps, le problème, c'est que Gabriel Attal...
Ils sont en train de préparer l'arrivée de l'extrême droite.
C'est une campagne un peu qui est celle du cercle de la raison, ce qui est courageux. Mais ce qui est rarement payant électoralement.
C'est vrai, hélas. Hélas,
je voulais poser une question
en dehors de la crise économique et financière qui peut arriver à cause des y compris à cause du programme du Rassemblement national, on est aussi au-devant d'une crise politique majeure, parce que quelle va être... Plaçons-nous dans l'hypothèse la plus répandue, celle d'une cohabitation, donc victoire du Rassemblement national, que ce soit majorité relative ou majorité absolue. Quel type de cohabitation allons-nous avoir? Est-ce qu'on aura une cohabitation entre gens raisonnables?
Oui, c'est ça.
Entre Chirac et Mitterrand?
Ben ça, c'est le calcul de Hollande,
entre Chirac et Jospin? Non. Oui. Donc, quelle sera la nature du combat? Et donc, quel sera l'espace laissé au président de la République?
Ce ne sera pas la même chose qu'avec les trois couples présidents.
Absolument.
Où beaucoup de leaders disent, en gros, ils se haïssaient régulièrement. Ils n'étaient pas d'accord, souvent, il y avait des chocs. Mais là, le problème va se poser dès le Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères, dès le ministère de la Défense. Et ça va se poser très vite avec le ministère des Finances et le budget.
Déjà sur l'Ukraine.
Donc, on va avoir beaucoup de dossiers sur l'Europe. Ça va être très vite compliqué, surtout qu'on n'a pas l'impression... du côté du Rassemblement national, il y a une explosion de talents, de gens totalement compétents et expérimentés. Alors, peut-être aussi que la jeunesse est un avantage. Ça l'est quand il y en a un peu, je pense, mais pas quand il y a des
gens... En tout cas, il y a clairement un refus des élites.
Oui, mais
c'est
paradoxal. Donc, et puis de l'autre
côté... Il y a un refus des
élites.
Ils ne sortent pas tous de l'ENA
Vous me rassurez, parce que ce n'est pas du tout ce que j'entends. J'entends plutôt des hauts fonctionnaires qui commencent à adapter leur stratégie, à commencer à dire qu'ils vont collaborer, les élites, pour l'instant, elles n'ont pas pris position contre le Rassemblement national.
Les élites contre le peuple, c'est le mot d'ordre de tous les mouvements populistes, de tous les nationaux populistes. Ils essaient de dresser le peuple, entre guillemets, contre les élites. C'est mortifère pour un pays. Il faut se rappeler une seule chose dans ce domaine sur les élites et le peuple. Quand Staline fait massacrer les élites polonaises à Katyn, que dit Staline? Il dit... S'agissant de la Pologne, pas d'élite, pas de problème.
C'est vrai.
Donc, si vous voulez que la France cesse de poser des problèmes et cesse d'exister, continuons à taper sur les élites.
Ce que je veux dire, c'est que les élites n'ont pas ne sont pas neutres. Elles ne sont pas un bloc homogène.
Vous inclus dans les élites.
Vous remercie. Je suis très flattée. Moi, je ne suis pas contre les élites. Je ne tiens pas un discours contre les élites. Je ne voudrais pas qu'on pense que les élites sont en train de prendre position contre le Rassemblement national. Ce n'est pas le cas. Les élites vont se diviser.
Est-ce qu'on a vous avez le sentiment, Carole, que dans le fond, ça c'est une question que je pourrais poser à Catherine, mais vous n'avez pas beaucoup parlé, Carole, que dans le fond, le front, pareil, comme Nathalie, j'ai du mal à dire, le nouveau front populaire, préférerait le RN au pouvoir plutôt que de gagner. Et se dire, on va être dans la résistance, la révolution, c'est nous, on incarne la révolution. On n'est pas fait pour gouverner, on est fait pour...
Je ne sais pas s'ils préféreraient.
Je ne sais pas. De toute façon, non, mais regardez comme...
De toute façon, comme l'a dit Jean-Marie...
Comme s'il passait aux États-Unis, comme il s'est passé avec Trump.
De toute façon, ils savent qu'ils ne gagneront pas. Ils peuvent, être peut-être la deuxième force, et puis
c'est l'enjeu.
Le bloc central de Macron tombe au milieu. Ça, c'est une hypothèse tout à fait plausible. Mais le fait qu'ils gagnent semble tout à fait hors de portée, malgré cette alliance faite à l'arrache, etc. Donc, et bien entendu, dans ces cas-là, oui, c'est plus facile.
Ils ont plutôt envie de gagner. Est-ce qu'ils peuvent? Certainement, c'est très compliqué. Mais penser qu'ils préfèrent le Rassemblement national à l'exercice du pouvoir. La gauche dans ce pays, c'est pas LFI.
Gagne avec 14 et le lendemain, dit ça sera Mélenchon Premier ministre.
Qui a dit que ça serait. Ça, justement, toute la gauche a dit que ça ne sera pas Mélenchon Premier ministre.
Mais
on verra.
Ça a été tranché.
Mais ils ont plus de circonscriptions.
On verra à l'arrivée. Je vous dis qu'à l'arrivée, vous verrez que LFI va perdre. Parce que les positions qui sont prises, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que par exemple, dans les duels de second tour, je ne crois pas qu'il y aura une mobilisation de l'électorat macroniste pour aller faire élire un député LFI. Je suis du côté du Front populaire. Je pense que c'est un très mauvais coup. Je termine ma phrase. C'est un très mauvais coup fait au Front populaire. Parce qu'en fait, on va perdre des députés à cause de la LFI. De deux façons, parce qu'il y a des gens qui ne voteront pas pour le Front populaire parce qu'il y a LFI, et il y a encore plus de gens qui ne voteront pas au second tour, qui ne se reporteront pas sur le candidat du Front populaire quand il est LFI. Je pense que LFI, il y aura un différentiel de démobilisation
qui leur sera très défavorable. Et ça va peser dans le résultat final.
Est-ce qu'il était possible de faire autrement? C'est ça la question.
Je pense que l'élection européenne, précisément, elle a tranché qu'elle n'avait pas tranché. L'élection européenne, LFI fait 10, et Glucksmann fait 14. Donc il n'y a pas une force qui écrase toutes les autres.
Alors justement, on va l'écouter.
Il fallait faire avec tout le monde.
On va l'écouter, Raphaël Glucksmann, à propos justement de la crainte, si le Rassemblement national l'emporte, des rapports cachés, on va dire, ou en tout cas en ce moment, avec la Russie.
Le Rassemblement national au pouvoir, c'est les petits télégraphistes du Kremlin qui dirigent la principale puissance militaire européenne en pleine guerre en Ukraine. Le Rassemblement national au pouvoir, c'est la déconstruction du projet européen. Le Rassemblement national au pouvoir, c'est la destruction systématique et la privatisation, ils l'ont déjà annoncé, de l'audiovisuel public. C'est-à-dire, en réalité, soyons cash, la vente à Bolloré du système audiovisuel public.
Nathalie, donc s'il y a une cohabitation de ce style, ce serait une cohabitation de combat et non pas une cohabitation comme on en a connu dans l'histoire.
Ah non, parce qu'il y a des... Alors peut-être pour de nobles principes, il n'y a pas... Parce que les programmes économiques, les volontés sociales, sur l'immigration surtout, il y a des choses qui sont totalement radicalement opposées. Sur la politique étrangère, on vient de le voir, il y a un moment donné où la fin ne justifie pas forcément les moyens. C'est-à-dire la volonté de gagner ne justifie pas qu'on s'allie. Enfin... Ça me semble, s'il y avait le moindre... quand il y a eu des alliances locales temporaires avec le RN ou je sais pas quoi, chez les LR, tout le monde poussait cri d'orfraie en disant « ils ont vendu leur âme au diable ». Je ne mets pas de signe équivalent entre le RN et l'FI, mais quand on considère qu'il faut aider l'Ukraine, quand on considère que Poutine est un dictateur, quand on a même du NPA qui ne sera pas élu, qui le 7 octobre fait un tract pour soutenir les Palestiniens, il y a un moment... Pas les Palestiniens, le Hamas. Il y a un moment donné où c'est des principes quand même. Donc si vous voulez, la cohabitation ne peut pas être, comment dire, je dis même pas être à la baladure, c'est-à-dire distinguer
Courtoise,
où il y avait Védrine et Bazir qui s'entendaient, toutes les choses se passaient bien. En gros, on était entre gens de bonne compagnie, sachant que François Mitterrand était de gauche au début, qu'après c'était un peu plus compliqué, donc il cohabitait un peu moins avec la gauche. Là, il y a des choses essentielles.
Oui, c'est ça.
Donc ça peut marcher un peu, pas longtemps, et ça peut traînasser et être... complètement instable assez longtemps, et comme le disait...
Non, mais sur la Russie, là je prends l'exemple de la Russie.
Il faut prendre l'exemple de la Russie, parce que c'est le problème qui va se poser
Quand je parle de cohabitation de combat...
Attendez, le budget de la défense, c'est pas un domaine réservé, la politique étrangère. Le chef de l'État peut très bien considérer qu'il doit y avoir une position, et si le budget de la défense n'est pas voté, si le ministre de la défense n'est pas...
Le problème, c'est que ces questions-là ont été tranchées. Elles ont été tranchées par les prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Et par la pratique.
Oui.
Et donc, au point de départ, rappelez-vous, François Mitterrand commence par exiger d'être associé au choix du ministre de la Défense et du ministre des Affaires étrangères.
Et il l'est, au début, la première cohabitation.
Il l'est, absolument, et il récuse d'ailleurs un des candidats au ministère de la Défense. Il s'en fera après son meilleur soutien. Mais ça, c'est le talent de François Mitterrand. Et s'agissant de la définition du champ d'exercice du président, de sa responsabilité, elle est internationale et européenne.
Oui.
Donc, est-ce que cela sera respecté ou est-ce que ce sera remis en cause par un gouvernement dominé par le Rassemblement national? Et c'est une question qui va se poser tout de suite et qui va nous menacer tout de suite d'une crise institutionnelle.
Et pour ce qui concerne le Front populaire, en revanche, le choix a été fait. Le programme du Front populaire a mis les choses au clair sur la question internationale.
Oui, mais c'est-à-dire c'est pas avec eux que ça va se poser.
Ce que je veux dire, c'est que là, on en était à se dire qu'il y avait deux questions, il y avait des questions internationales.
De la personne qui émerge. Parce que comme on ne sait pas quel est le Premier ministre pour l'instant, parce qu'ils ont dit que ça se réglerait Olivier Faure a proposé que ça se règle avec un vote. Ce qui n'est pas totalement non plus dans la Constitution, parce que le nouvel ordre, c'est le président qui choisit. Si c'est un Premier ministre LFI...
Mais ça ne peut pas être un Premier ministre.
Mais
ça ne peut pas, puisque la majorité à gauche ne sera pas LFI.
Oui. Ah non, mais que ça, vous lisez dans le marc de café.
Mais oui, je lis dans le marc de café, parce que... Pourquoi ? Parce que les candidats...
Personne
Parce qu'on le sait, parce qu'aujourd'hui, la répartition des circonscriptions...
Écoutez... Nos amis de l'IFOP, si j'ose dire, vont sortir un sondage.
Oui, on aura des sondages.
Mais il n'y aura pas de majorité aujourd'hui.
Oui, des candidats, enfin des candidats sur le terrain.
Aujourd'hui, la LFI, c'est la différence entre la NUPES et le nouveau Front Populaire, et c'est pour ça que LFI traîne des pieds, c'est parce que la différence entre NUPES, c'était sous domination absolue,
l'hégémonie de LFI
et de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est plus le cas, parce que la répartition, ben vous prenez la répartition, par exemple, des circonscriptions, la LFI, elle a 35% des circonscriptions, elle n'a pas la majorité circonscriptions.
Mais elle en a plus quand même.
Elle en a 220, et moi, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est, même si ça vous a fait mal à la tête, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les candidats LFI, mais vous disiez qu'on se perdait dans mes explications, je dis les candidats LFI seront battus, souvent, parce que la LFI un obstacle à voter circonscription.
Ça laisse deux hypothèses, du coup, ça plaide pour que la gauche n'ait pas de majorité, et que du coup, on est dans les deux cas de figure possibles, c'est-à-dire ou une cohabitation de combat avec le Rassemblement national, ou bien s'il n'a pas la majorité, s'il progresse fortement mais qu'il n'a pas de majorité absolue, Macron va essayer d'aller chercher un peu,
Se fait une coalition,
un peu de LR compatible, un peu de...
Mais c'est ce qu'il a essayé de faire depuis 3 ans.
Mais sauf que là... il le fera sous la contrainte. L'erreur qu'il a faite, évidemment, c'est en 2022 de ne pas prendre acte et de reconnaître qu'il n'avait qu'une majorité relative et que là, il fallait faire une coalition. Donc, il a préféré, comme d'habitude, des débauchages individuels, ce qui n'a rien à voir. Il n'y a pas de contrat de gouvernement. Donc là, si le RN n'a pas la majorité absolue, il va être contraint de faire ça. Mais il sera beaucoup moins maître du jeu que s'il l'avait proposé spontanément, après la sa victoire.
Juste une question très vite, parce que Véronique nous attend. Quand même, dans ces fameuses clarifications qui sont arrivées, quand même, on a vu Serge Klarsfeld, ancien chasseur de nazis, dire qu'il voterait pour le Rassemblement national.
Du pistolet sur la tempe avec.
Dominique de Villepin choisirait le nouveau Front Populaire. Tout est un peu à l'envers, en fait. Enfin, tout est un peu nébuleux. Chacun fait sa...
S'il y a un second tour, on élimine, en fait, au second tour. Donc, chacun choisit.
Chacun des deux.
On a vécu dans une période où l'ennemi absolu, quand c'était Jean-Marie Le Pen, puis Marine Le Pen en partie, était le Rassemblement national qui était... On traitait de parti fasciste, d'extrême droite et tout. Très bien. Je dis pas que c'est vrai ou c'est faux, je dis c'est comme ça. Et puis, avec un certain nombre de débordements qu'il a pu y avoir du côté de LFI, un certain nombre de déclarations, c'est marginal, mais quand Jean-Luc Mélenchon, à la suite du viol de la petite fille de 12 ans et tous les enfants, ne dit pas acte antisémite, mais dit acte de racisme, parce qu'il ne peut pas dire antisémite. Il y a des gens qui se sont dit finalement.
Et la réaction d'Amérique Caron était pas mal non plus.
Elle était chouette, hein.
Oui.
Ouais, donc l'histoire de la petite fille, c'est un peu le papivoise aussi.
Si vous voulez, quand vous avez l'impression qu'il y en a qui se normalisent en mentant ou ne mentant pas, en se masquant, et d'autres qui vont vers un certain nombre de dérives, mais il faut entendre ce que les socialistes disent sur LFI quand même. Faut les entendre. Vous les entendez largement autant que moi. Donc, si vous voulez, le fait que ça brouille les cartes, qu'il n'y ait pas le grand Satan d'un côté, et finalement, bon, la gauche, c'est quand même la gauche, c'est assez logique que les gens soient perdus. Ça dépend ce qui pour eux est le plus important.
C'est vrai.
La politique étrangère.
Alors, je vous arrête, je suis désolée, mais on attend. Enfin, c'est plutôt elle qui nous attend, et on l'attend aussi, Véronique Reissoul, pour la politique sur les réseaux. Chère Véronique.
Bonjour.
Donc vous voulez nous parler des influenceurs qui...
Ben oui, parce que vous le dites vous-même, les gens sont perdus, donc ils cherchent de la lumière.
Des gourous,
des gens qui vont leur dire que voter. Alors je peux vous confirmer, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle on va se focusser sur ces gens passionnants, parce que sur les réseaux, ça patauge. Voilà, donc c'était difficile de vous dire.
Sur les réseaux.
C'est chaque jour, même la temporalité de notre index que je vous ai. Allez regarder, notre index, on l'a fait sur 24 heures et on met à jour toutes les 15 minutes parce que ça bouge tout le temps. La même personne est capable de dire l'inverse et son contraire en fonction des déclarations des uns et des autres, ça promet. Donc, les influenceurs. Alors, je vais vous montrer un visage. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ?
Non.
Oui.
Ben oui. Ben oui, ce monsieur s'appelle Squeezie.
Squeezie.
Et Squeezie, c'est ce que l'on appelle un influenceur numérique. Un influenceur numérique, c'est quelqu'un qui a fait sa notoriété en étant sur les réseaux sociaux, dans son cas en divertissant, et qui a plusieurs millions de followers, nous y reviendrons. Mais donc, quand un influenceur comme Squeezie...
Squeezie, il fait quoi? Il chante dans
la... Il est gamer. Humoriste, gamer et humoriste. Voilà. Il apporte ce qu'on dit, des,
okay. Oui, 19
des contenus
millions
divers.
C'est 19 millions qui est effrayant.
Voilà.
19 millions sur YouTube.
Voilà, et pas que YouTube, on va y revenir. Mais en gros, il a lancé un appel politique en disant « faites, voilà, allez voter et il faut faire opposition au Rassemblement National ». Ça a donné quoi? Ça a donné 230 000 messages, grosso modo, sur une semaine. Alors évidemment, avec un pic au moment où il a lancé l'appel. 4,7 millions d'engagements, ça veut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de commentaires. Dans les commentaires, il n'y a pas eu que du positif. Et quand je dis il n'y a pas eu que du positif, c'est que quand vous êtes un influenceur numérique, votre valeur, c'est le nombre de followers. Donc quand vous perdez des followers, ce qui a été son cas, parce que forcément, tout le monde n'a pas apprécié qu'il se mette à parler. Voilà, on va le voir dans quelques instants. Voilà, on a annoncé qu'il avait perdu 100 000 followers, par exemple. Voilà, donc un vrai sujet. Les fans se sont mobilisés pour dire non, 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 s'il perd des followers, il perd de la valeur. Et donc, comme on est fan, on ne peut pas le laisser tout seul. Donc, ils sont mobilisés en disant, au final, il a gagné 100 000 racistes de moins. Et il y a eu toute une polémique en soi. Et donc, in fine, ce bon monsieur, donc voilà les chiffres pour vous dire l'importance de cet homme. C'est 19 millions sur YouTube. Il a perdu 100 000, il n'a pas regagné les 100 000. Mmh. Sur TikTok, il a 5 millions. Il a gagné 100 000 après cette campagne. Sur Instagram, il est à 8,1 millions et il en a gagné pas mal. Ouais. Il est à 8,8. Donc, dans le fond, parler, en perdre et remobiliser tout le monde, ça était plutôt efficace. Et sur Twitch, je ne vous l'ai pas mis, c'est 4,8 millions qui était un peu à part dans la polémique. Donc, on voit bien que ces influenceurs, voilà, ouais. Ils s'invitent. Mais ce sont des influenceurs un peu particuliers.
Et alors, il y en a
s'il
d'autres
était suivi, ça inverse totalement le pronostic.
Vraiment.
Ou les indications des sondages. Hein. Oui. Parce que c'est la moitié du corps électoral.
C'est la moitié du corps électoral, exactement. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire que c'est rien.
Mais est-ce que les gens qui l'écoutent...
C'était très argumenté. Moi, je les ai regardés. C'était un message extrêmement argumenté, extrêmement bienveillant à l'égard des jeunes qui avaient voté pour le Rassemblement National. Il leur a dit... On peut se tromper dans la vie, mais il faut réfléchir. Et c'était super argumenté. Ouais. C'est quelque chose de très solide qu'il a fait. Il a pas fait du ouh. Non, il a fait un...
Oui, Roselyne, faut s'y mettre.
Mais non, mais j'ai pas aussi, toi non plus.
J'ai mis des articles dans les hebdos, moi, sur le phénomène, mais c'est tout. Après, je me dis Lacan, de quel lieu il parle. Je dis pas qu'il faut être une élite pour pouvoir dire quelque chose, mais si tout le monde commence à donner son avis sur...
Oui.
Mais c'est bien, sans
doute. C'est ça. Mireille Mathieu, on va dire que c'est la démocratie.
Moi, je vais vous...
Non, pas mal.
La démocratie avec un moyen qui permet de toucher 19 millions.
Nous sommes endoctrinés chaque semaine par Véronique.
Voilà. Donc, il y a d'autres influenceurs.
Bah, oui.
Donc, il y a eu Mbappé, on a vu.
Non, en fait, il y a une vraie nuance entre les deux. Il y en a un, sa vie, elle dépend de ses followers. Sa valeur, elle dépend de ses followers. Monsieur Squeezie, il existe parce qu'il a des followers. Il les perd, c'est une cata pour lui, il n'est plus rien. Monsieur Mbappé, c'est un influenceur. Madame Marion Cotillard, c'est une influenceuse. Ils ont une réalité qui est, ils sont très suivis. Alors, pour vous donner une idée, on a, par exemple, on va passer les chiffres, on va passer celui-là, parce qu'on n'a plus le temps que je vous explique le choqué et tout ça. Voilà. Mbappé, c'est quand même 118 millions de followers sur Instagram. Donc, on ne sait pas les mêmes proportions. Et surtout, lui, quand il dit quelque chose, qu'il influence ou qu'il n'influence pas, il ne perd pas de followers. Il a une réalité que là, quand il a pris la parole au niveau politique, en une heure, il y a eu 130 000 messages et 1 million d'engagements. Donc en fait, il y a une réalité quand même de influenceur et influenceur. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut se poser la question de qui influence qui. Est-ce que c'est l'opinion qui influence le fameux monsieur Squeezie ou monsieur Squeezie qui influence l'opinion? Mais en tout cas, ce sont des gens particuliers. En revanche, il est évident que le sujet d'une personnalité du football, par exemple, aussi populaire, qui est une idole aussi populaire, eh bien oui, ça fait parler. Alors ça n'empêche pas qu'il soit un peu critiqué, mais comme vous pouvez le constater, c'est des critiques plutôt humoristique et sympathique en disant, vous savez, il s'est cassé le nez, qui est un autre grand sujet sur Mbappé, et il s'est cassé le nez, et donc il y a des blagues disant, il ne fallait pas mettre ton nez dans la politique. Globalement, on voit bien que ça a une influence, mais l'influence de M. Mbappé est elle aussi importante, parce que ce sont des phénomènes de société, ce sont des gens qui sont suivis, des idoles et des modèles.
Quelle incidence sur le vote ? Grand point
impossible, mais vous ne pouvez pas savoir quelle est l'incidence sur le vote, puis on n'a pas le temps là, mais grand débat en ce moment sur les réseaux sociaux, on n'a vraiment pas le temps.
Non,
mais, les jeunes en parlent, ça a beaucoup, beaucoup fait parler, ces prises de position.
Énormément.
Moi, je suis au courant, parce que j'ai un gamin de 17 ans, et tout autour de lui, tout le monde a parlé de la prise de position Squeezie, et d'ailleurs, Jordan Bardella a dû lui répondre sous la même forme, c'est-à-dire en faisant exactement, reprenant... les mêmes items, etc. Quoi.
D'accord. Ben, merci de nous avoir éclairé, vous tous et vous toutes. Voilà, merci Jean-Marie. Vous étiez en minorité. Vous êtes en minorité, là, clairement. Hein, donc, j'espère que dans votre gynécée, vous êtes heureux et épanoui. Merci beaucoup.
Ce sont harem, en fait.
Ce sont harem, voilà.
Alors, à savoir si les résultats de l'élection vont influencer cette capacité que vous avez
à rayonner.
Voilà.
Merci beaucoup, merci à Flore Simon et merci à l'équipe technique, à toute l'équipe technique. Merci, à très vite.